Cube Radio.
Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cet antipode extra, vraiment extra spécial en plus, parce que c'est rare qu'on en fait, c'est la première fois qu'on en fait deux semaines en ligne, mais là, on a vraiment une belle occasion de célébrer et de vous donner plus de contenu. Pat Laprade, K.R., Kevin Raphaël. Kev, on a vraiment quelque chose de spécial. Ben, c'était cette semaine Dark Side of the Ring, la série à succès sur la série documentaire à succès sur Vice, sur Crave TV. Et cette semaine, il y avait l'épisode sur l'assassinat, le meurtre de la vedette québécoise de lutte Dino Bravo, dans laquelle j'ai été interviewé, j'ai travaillé en arrière-scène.
Moi, ce que je veux te dire, Pat, sit back, j'ai pris des notes. Et ce que je veux, c'est que tu puisses donner ton input par rapport à l'entrevue, par rapport à Dino Bravo, par rapport au processus. Je voulais te dire, je t'ai trouvé encore meilleur dans celui de Dino que dans celui de Géant. T'avais plus de place dans celui de Dino, puis c'était vraiment bon. T'as fait une bonne job. Un des meilleurs documentaires que j'ai vu à date, c'est celui-là. Je l'ai trouvé complet. Je l'ai trouvé... Si tu savais pas c'était qui Dino Bravo, t'étais attaché après la première pause là, t'étais attaché à lui puis tu voulais en savoir plus.
Tu me laisses une place pour au moins te dire merci. C'est super apprécié.
Puis l'autre,
c'est ce que j'ai remarqué.
Vas-y.
Tu sais, le documentaire sur les Rougeaux a repassé il y a pas longtemps dans lequel j'étais, et j'ai remarqué que j'avais la même chemise que dans le documentaire sur Dino Bravo.
Donc, c'est ta chemise propre.
C'est ma chemise propre de tournage de documentaire.
That's dirty.
Non, elle était propre, la chemise. Arrête, Fred.
OK, Kev, parfait.
Vas-y, je relaxe puis je réponds
back,
à tes
enjoy.
Questions.
Donc, documentaire de Dino Bravo, quelques notes par rapport au documentaire. C'était supposé sortir l'an dernier.
Oui.
Par contre, les boys, ils sont fait couper leur saison de 10 à 6. Donc, il y a plusieurs documentaires qui ont dû envoyer à l'année prochaine ou qui mettaient juste sur la glace. Et est-ce que notre invité...
Parce qu'on l'a pas dit, mais restez là parce qu'un petit peu plus tard, dans l'extra, on va avoir l'un des co-créateurs et producteurs exécutifs du documentaire qui est Evan Osney. Donc, c'est lui que moi j'ai rencontré beaucoup lorsqu'il était à Montréal. C'est lui qui m'interviewait d'ailleurs, donc on va l'avoir sur le show pour en parler.
Ce que Evan disait, c'était que c'était shooté à 75%.
Ouais.
Puis eux, ils s'étaient dit, l'histoire est tellement bonne que si Vice fait pas une saison 2, nous on va sortir le documentaire nous-mêmes, puis les reenactments, là, les
scènes.
Les scènes reprises, là, les fausses scènes, ils allaient les faire avec des petits bonhommes de lutte.
Oh wow,
ouais,
okay.
Donc ça, c'est une information que je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Pat, je sais pas si tu le savais, t'es le seul de toute l'histoire de Dark Side of the Ring qui a fait des entrevues.
À part Evan.
Oui,
Evan m'a dit ça la fin de semaine dernière. Et ben c'est d'ailleurs le seul documentaire où il y a une autre langue que l'anglais qui est parlé. Parce que même pour, mettons, Bruiser Brody, il n'y avait pas d'espagnol. Même si, tu sais, il y avait des choses à Porto Rico. Donc, j'ai la chance de parler français.
J'ai trouvé vraiment hot qu'il laisse... vraiment beaucoup de place aux Français. Parce que souvent, quand, pis tu sais, moi, je l'ai vu avec le documentaire Gapier, c'est pour le Québec, mais tu veux pas mettre trop d'anglais, mais l'anglais est vraiment bon. Fait que là, finalement, un peu réticence, tu mets de l'anglais. Eux, ils ont été all out en français. Ils ont même, à un moment donné, Jacques Rougeau, il dit ça veut dire, puis ils l'ont gardé.
Valeur marchande.
Ouais. Puis, tu sais, ils l'ont pas titré. Moi, j'ai vraiment apprécié qu'ils ont dit, bon, au Québec, sans français, on le fait comme ça. J'ai vraiment apprécié ça.
Il y avait des sous-titres, par contre, en anglais. Je peux te dire, par contre, que je pense qu'il aurait aimé si chacun des interlocuteurs aurait pu bien s'exprimer en anglais.
Ouais, mais c'était ça, mieux en français.
C'est pour ça que Claudia Bresciano, la fille de Dino, c'est pour ça que Claudia, à un moment donné, elle parle un peu en anglais, puis à un moment donné, elle parle en français, mais elle s'est essayée un peu. Diane, c'était uniquement français. Ouais. Claude Poirier, c'est uniquement français, mais André Cédillo, que tu sais qui André Cédillo en passant?
Ben, je l'ai vu dans le documentaire.
Non, mais c'est, OK, fait, tu sais pas ce qu'il a fait ici, André Cédillo?
Ben non, tu vas me le dire.
André Cédillo, c'est celui qui a coécrit Mafia Inc., le livre qui est devenu un film.
Oui, tu me l'as dit la semaine dernière, c'est vrai.
Non, mais je sais, tu m'écoutes pas quand je parle.
Je t'écoute. Ça, c'est une question pour Yann. OK, parfait. Le fameux souper, Pat. Il y a eu un souper, je sais pas, ben, clairement, tu t'en rappelles, là, parce que Claudia ne voulait plus faire le documentaire, elle t'a texté pendant que tu faisais une entrevue. Ouais. T'as sorti Evans, tu lui as dit, elle veut plus faire l'entrevue. Vous êtes allé souper. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'était quoi l'idée derrière aller souper pour essayer de la convaincre, etc., etc. Parce que elle, c'était la première fois qu'elle allait faire une entrevue par rapport à ça. Et dernière minute, elle dit, eux, ils ont voyagé, là. Puis dernière minute, elle dit, laisse faire.
La famille de Dino Bravo, le décès de Dino, c'est quelque chose qui est très tabou dans la famille. C'est pas quelque chose qu'on parlait. La mère de Dino, donc la grand-mère de Claudia, elle était très réticente à ça, elle est très fermée par rapport à ça. Malheureusement, elle est décédée dans les dernières années, mais ça a toujours été un sujet un peu particulier. Avant de répondre à ta question, je vais aussi t'expliquer d'où je connais Claudia. Claudia, c'était une amie d'enfance de la sœur d'un de mes amis que je pense que tu as peut-être déjà vu. C'est un lutteur ici au Québec, Handsome JF, Jean-Frédéric Clément, dont sa sœur était amie avec Claudia. Donc moi, j'ai c'est drôle. Moi, la première fois que j'ai vu Claudia, c'est au Fuzzy de Laval. parce que elle, la sœur à mon ami, puis un autre de leur ami, ben il y avait genre 18-19, ils commençaient à sortir. Nous, on était déjà un peu plus vieux, mais on sortait encore. J'étais là la première fois que Claudia a vu un clip YouTube du bulletin de nouvelles quand son père est décédé. Non. Parce qu'un de nos amis lui avait demandé, tu veux-tu le voir? Puis il l'avait sorti sur son cellulaire parce que lui, c'est un gros fan de Dino Bravo. Et c'est la première fois qu'elle voyait ça.
Puis c'était quoi la réaction?
Ah, ben elle était un peu sous le choc. Elle avait jamais vu ces images-là. Mais par la suite, elle est comme devenue... elle a comme voulu porter le nom de son père et lui rendre hommage le plus souvent possible. La TOW, une promotion de lutte ici au Québec, avait rendu un hommage à Dino Bravo, un hommage posthume, et c'est Claudia qui était venue un peu recevoir la plaque commémorative, si tu veux. Donc, tranquillement, elle a commencé à vouloir un peu, à vouloir plutôt représenter son père dans ce genre d'événement-là. En mars 2018, c'était le 25 ans du décès de Dino Bravo. Donc, je parle à Claudia, puis je lui demande, est-ce que tu me donnais une entrevue? T'as jamais donné d'entrevue? Puis j'aimerais ça parler à ta mère également, qui elle non plus avait jamais donné d'entrevue. Elle a convaincu sa mère, et c'était la première fois que les deux faisaient des entrevues.
Détail, donc là, fait quand ils ont tourné 75% du documentaire, Diane n'était pas là. Dans le premier shooting.
Non.
T'es pas convaincu. Les boys sont allés montrer.
Tu sais, j'ai toujours pas répondu à ta première question, par contre.
Hein? C'était quoi?
Ben oui, mais si tu m'écoutais.
Le souper.
Si tu m'écoutais.
Mais non, mais je t'écoute, mais pas.
C'est parfait, c'est parfait. Donc dans le fond, où je m'en allais avec ça, c'est que Diane et Claudia m'avaient donné une entrevue pour la toute première fois. L'article est disponible encore sur le site web de TVA Sport. Et
c'est vrai, puis ça avait levé.
Ça avait levé. Moi, on m'avait dit que ça avait été l'article, tout sport confondu, le plus lu ce week-end-là sur le site web de TVA Sport. Et là, on est en mars 2018, et là, on tourne, nous autres, en avril ou en mai 2018. Là. C'est dans les mois qui ont suivi. Claudia est pas habituée là, à faire des entrevues, puis est encore un peu nerveuse par rapport à tout ça. Puis pas nécessairement nerveuse, mais sa crainte, c'était j'ai peur que le sujet qui est mon père en fait soit pas traité avec respect.
Ouais.
Tu sais, j'ai peur que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je les connais pas ces gens-là. Toi, je te connais. Je sais que tu vas faire un article qui va bien, qui va rendre hommage à mon père. Eux autres, je les connais pas. On est en train de faire l'entrevue avec Claude Poirier et elle me texte ou elle m'appelle puis elle me dit Pat, ça marche pas. On devait faire l'entrevue ce soir-là. Puis elle me dit ça marche pas. Je la fais plus, je me sens pas à confiance. Je parle de ça à Evan et à son partenaire Jason, qui a aussi été, qui est co-créateur avec Evan. Et il dit, OK, regarde, voici ce qu'on va faire. Là. Dis à Claudia qu'on va aller souper ce soir, qu'elle amène son copain, toi sois là également, parce que je sais qu'elle a confiance en toi. Puis on va juste voir si on peut pas essayer de justement faire en sorte qu'elle ait confiance.
Ouais.
Et j'ai trouvé l'idée qui était super. C'était une belle réaction de la part d'Evan.
C'était moi, puis la façon que les boys en parlent, moi j'ai trouvé que c'était une idée humaine. Parce que le gars, la fille, là, son père, il est mort.
Ouais.
C'était humain de leur part de dire on veut pas juste profiter, regarde, non. Allons souper.
Exactement. Et Claudia a accepté. Elle est venue avec son copain Luc. Et j'étais là également. Puis par la fin du souper, elle était all-in.
Mais là, vous avez des. Là, tu vois, j'ai travaillé fort pareil, là.
Ben oui.
T'es choqué,
ben,
hein?
C'est parce que, non, c'est parce que je sais. Ben oui, je suis choqué. Parce que d'habitude, tu travailles pas fort. Mais t'as écouté le podcast de Devin avec Conrad Thompson.
Non, j'ai écouté Conrad. Puis oui. J'ai écouté un autre podcast qu'ils ont fait la okay. semaine dernière.
OK.
Parfait. T'es prêt?
Oui.
OK. So, ça, donc, Diane a dit qu'elle veut pas Fall en saison 1. Finalement, il lui montre saison 2. Ça, il lui montre qu'est-ce qu'ils ont fait à la saison 1, puis elle accepte saison 2.
Exact.
10 mars 93, la famille de Dino Bravo le trouve mort chez lui, exécuté. La façon que c'est dit dans le documentaire, c'est mafia style. Ils sont pas capables de dire combien de balles. Et souvent, ça a changé 8 fois pendant le documentaire, là, mais ça fait partie de la vie. Là.
Ouais.
Moi, j'ai aimé, je pense que c'est toi qui as fait la comparaison, t'as dit, ou je sais pas plus qui, c'était le Hulk Hogan du Québec.
Ah, dis-le, c'est moi qui ai dit ça. Dino Bravo, là, moi, ça a été, avant d'être un fan, tu le sais, je suis un fan de Hulk Hogan parce que j'ai grandi avec lui. Moi, Dino Bravo, j'étais un fan de Dino Bravo avant d'être un fan de Hulk Hogan.
Ouais.
Dino Bravo, dans les années 80, lui avait commencé en 70, il avait connu la rivalité de Lutte Grand Prix et des As de la lutte. Quand la lutte est tombée morte au Québec en 75, il a été à l'extérieur, lutté un peu partout, en Amérique du Nord, au Japon. Et quand la lutte rouvre en 1980 ici au Québec avec promotion Varoussac, à Gino Brito, le géant ferré qui est promoteur avec Gino Brito et Frank Valois à l'époque, ben Dino Bravo devient rapidement là la méga star là, et la plus grosse star de l'époque. Au final, Dino Bravo aura été l'un des lutteurs les plus populaires de l'histoire de la province après là, les Yvon Robert, Johnny Rougeau, Édouard Carpentier. Il avait fait une rivalité, Kev, Dino Bravo contre Ricky Martel. Ricky Martel vient de Québec, Dino Bravo vient de Montréal, donc Montréal-Québec dans les années 80 avec le hockey et tout, ouais. C'est très très fort.
On va parler du hockey.
Et y a une rivalité entre les deux, et à Québec, Dino Bravo était plus populaire que Ricky Martel.
C'est fou, ça.
Et quand les deux teamaient, quand les deux faisaient équipe ensemble, c'était un peu nos Mega Powers à nous autres. On connaissait pas encore les Mega Powers, mais c'est les deux grandes vedettes qui luttaient en simple habituellement, qui luttaient en équipe. Il y avait les Rougeau aussi là-dedans, qui étaient très populaires. Donc, c'était ces quatre-là qui... La popularité de la promotion était basée beaucoup sur ces quatre-là.
Jacques Rougeau, il a vécu sa plus belle vie dans ce documentaire-là. Il était all out. C'était Jacques que j'ai rencontré à Sucré-Salé pour ma première entrevue. Mais j'ai trouvé qu'il était très bon dans le documentaire parce que il était tu sais, il avait l'air content d'être là.
Fait que oui, tu sais, des fois j'ai un peu de difficulté avec le contenu que Jacques peut amener dans une entrevue.
C'est pour ça que j'ai dit je vais demander à Pat. Pat va éclairer.
Écoute, la seule chose à mon avis qu'il a dit qui était c'est pas passé comme, en tout cas, comme moi, je pense que ça s'est passé, là, évidemment, j'étais pas là, mais c'est quand il dit que c'est Vince pis Pat Patterson qui l'ont appelé pour aller à WWF. Moi, l'histoire qu'on m'a toujours dit, c'est que c'est Édouard Carpentier qui était le promoteur local, c'est par lui qu'ils ont passé, et lui a parlé à Raymond Rougeau, parce qu'Édouard était plus proche de Raymond. Et c'est Raymond qui a dealé au début avec Carpentier, pis Raymond, c'était le plus business des deux. Donc, j'ai pas de misère à croire cette histoire-là. Mais en même temps, le documentaire est pas sur les Rougeaux. Donc, ça m'a pas trop dérangé.
Ouais. Mais sinon, ça avait l'air, tu sais.
Sinon, je savais pas que Dino l'avait appelé. Encore là, est-ce que c'était vraiment la journée qu'il s'est fait tuer ou une couple de jours avant? Mais je savais pas qu'il l'avait appelé. Et là, j'ai eu bien des commentaires là-dessus. Les gens ont dit, ben voyons, là, tu sais, ça se peut pas. Puis pourquoi Dino a rappelé Jacques? Puis ce que vous savez pas, c'est que Dino Bravo avait l'intention, un de ses plans, c'était de repartir la lutte au Québec. Ce que Jacques Rougeau a fini par faire quelques années plus tard. Donc, qu'il ait appelé Jacques, je suis pas surpris dans ce sens-là. Je serais très surpris qu'il ait appelé Jacques pour se confier qu'il était en danger. Mais je pense qu'il a pu appeler Jacques pour quelque chose d'autre. Ouais. Mais je suis pas sûr que c'était parce que. Mais en même temps, il y a personne qui le sait.
Dino se bookait comme top guy, il était le top guy de l'international.
Dino Bravo était, il y a bien des boys qui le voyaient comme le grand boss, mais et c'est parce que Gino Brito, là, je veux dire, c'est lui qui tirait les ficelles en bout de ligne, là. Bravo, il a été booker un bout de temps, mais Léo Burke a été booker, Ricky Martel a été booker, Gino a booké aussi un bout de temps. Moi, là, quand je parle aux lutteurs je veux pas dire les job guys, là, mais quand je parle aux lutteurs, tu sais, de préliminaires, ils me disaient toujours que Dino, c'était le boss. Mais moi, quand je parle au boss, Ben, Dino était pas plus boss que quelqu'un d'autre. Mais ça se peut qu'au niveau des lutteurs, peut-être que Dino emmenait un peu plus large. Mais en même temps, à aucun moment, Dino, il se bookait pas en top pour être plus populaire qu'il l'était. Il était vraiment populaire et il méritait sa place en top.
Il y avait des plans pour Hogan, Dino au stade olympique, mais Vince avait peur que Dino soit plus babyface que Hulk Hogan. Ça, c'est selon Evan, encore une fois.
Ouais, ouais, là, tu, bah ouais, ben, c'est parce que c'est moi qui ai amené cette histoire-là à Evan. On en parle dans notre livre, moi puis Bertrand, sur l'histoire de la lutte au Québec. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des shows conjoints. La WWF a pas conquis Montréal du jour au lendemain, comme dans d'autres territoires. Le Forum de Montréal, dans ce temps-là, tu sais-tu qui s'occupait de booker le forum? C'était ceux qui étaient à la présidence du Canadien de Montréal. C'était Ronald Corrie puis c'était Serge Chabard. Okay. C'est eux autres qui décidaient qui bookait le forum. Et eux autres, ils étaient très contents de qui il y avait comme locataire, qui était Lutte Internationale. Vince McMahon n'a pas été capable juste d'étasser puis de prendre le forum. Donc, ils ont offert à la WWF de faire des shows conjoints avec Lutte Internationale. De août 85 à janvier 86. En janvier 86, il devait y avoir un match Bravo Hogan. Bravo est encore babyface là à ce moment-là. Et le match a été annulé. Finalement, Bravo et Hogan ont lutté contre des partenaires, des adversaires différents. Et la raison derrière, c'est qu'on avait peur que Bravo soit plus populaire qu'Hogan. Et ça, Vince, il pouvait pas laisser ça passer. Ouais. Parce que si ça s'était su, ça aurait été... ben lui, sa mentalité, ça aurait été très dommageable pour la réputation d'Hogan. Donc, et ça, ça m'a été confirmé en plus par Jerry Briscoe, qui m'a dit non seulement ça, mais on avait peur qu'il y ait quasiment une émeute si jamais mettons Hogan était pour gagner ou juste le fait que à un moment donné c'est Hogan, tu sais qui aurait été hué, puis on avait même peur pour une émeute là, contre Hogan. Bravo était vraiment vraiment over comme babyface ici. Je pense pas qu'il y aurait eu une émeute, mais effectivement Hogan aurait pu être même hué et ça passait pas avec Vince.
WWF venait chercher les talents malgré le fait que WWF a proposé de travailler avec lui et ils ont pris pas mal tout le talent de lutte, le gros talent de lutte internationale, et en fin 86 Dino doit choisir s'il continue ou pas.
Ben oui, parce qu'à ce moment-là, après l'affaire d'Hogan, ça l'a vraiment frustré Dino. Il s'en allait à la WWF. Les Rougeaux étaient partis en février 86, et Dino, lui, il devait partir lui aussi. Finalement, il a décidé de rester. Il a décidé de dire, ben regarde, on va leur faire compétition de bord. Et c'était l'esprit dans lequel Gino Brito était déjà. Parce que Gino Brito, le premier show conjoint qu'il y a eu, Kev, c'était en août 85, puis la finale, ça n'avait rien à voir avec la WWF. C'était les Rougeaux contre les Garvin. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette rivalité-là. Cette rivalité-là, elle seule, aurait rempli le forum. Elle aurait rempli le forum, cette rivalité-là. En plus, il y avait des lutteurs de la WWF. Et Vince McMahon avait dit à Gino, hey, on n'aurait même pas eu besoin de tes gars à soir pour remplir. Ouais. Et Gino, ça l'a frustré parce qu'il savait c'était quoi le vrai draw. C'était les Rougeaux et les Garvin. Il a dit à Vince, the fuck you know. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis dans la tête de vouloir compétitionner avec Vince. Donc, quand Bravo arrive dans le même mood que Gino, qui est son partner, ben là, les deux sont dans ce mood-là. Tonga est finalement parti en 85 à coup à la WWF. Et en 86, je veux dire, à l'été 86, Frenchy Martin est parti. Rick Martel et Bravo sont partis à l'automne tous les deux parce que là, à un moment donné, le territoire descendait. Mais ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la WWF, entre-temps, en février 86, prend possession du forum à elle seule. Parce qu'une fois que tu laisses Vince avoir un pied à quelque part, il finit par avoir les deux pieds. Et il y a eu un échange, comme au hockey. Vu que Vince pouvait pas rentrer au Forum de Montréal, il a pris contrôle du Colisée de Québec. Lutte Internationale pouvait pas faire de show au Colisée. Il l'avait exclusif. Quand il a voulu prendre le Forum, il a échangé le Colisée à Lutte Internationale pour le Forum de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'en 86, la dernière grosse crowd de Lutte Internationale, c'était en 86 au Colisée, parce qu'il pouvait encore faire des shows là, mais il pouvait plus en faire au Forum. Donc là, t'as plus le Forum. La WWF a sa télé à Montréal. La promotion a commencé à descendre. Puis à un moment donné, l'argent était trop intéressant pour que des gars comme Bravo et Martel y aillent pas.
Donc, Bravo reste un 300 000 garantie avec la possibilité de faire 1 million ou près d'un million. Ils ont choisi Jimmy Hart comme manager de Dino Bravo. Puis en 30 minutes, Jimmy Hart, il a compris qu'il y avait la grosseur, il y avait le poids, que c'était, il y avait tout pour devenir une star. Là, il a commencé à flasher avec son argent, acheter une grosse maison à Vimont, où je suis proche.
Une maison de 850 000 $.
Ah, c'est ça, on n'avait pas cette information-là. Il a acheté une auto à rouge, une auto de course à sa fille qui avait 4 ans dans ce temps-là. Et est arrivé le moment où Diane a du bleach. Les cheveux de Dino Bravo.
Ben oui, parce que sûrement Vince a fini par... C'est drôle, il a été chercher tous les Québécois pour attirer des foules au Québec. Puis à un moment donné, il a fini par tout tourner heel, les Québécois. Martel est devenu le modèle. Mmh. Les Rougeaux sont devenus les Fabulous Rougeaux. Puis Bravo, il s'est en allé en team avec
ce qui
Greg
est pas mauvais. Ce qui est pas mauvais, parce que... ben, je peux pas parler parce que j'écoutais pas la lutte dans ce temps-là. Mais à la base, tu sais, ils ont fait ça avec les Hart, là.
Ils ont fait ça avec les Hart aussi. Ouais, non, t'as raison. Mais puis en plus, mais l'affaire, c'est qu'il avait tourné Bravo à Montréal avant même qu'il tourne à la télé. Il avait tourné Bravo à Montréal dans un match avec les Rougeaux où il se tourne contre les Rougeaux. Donc, il voulait vraiment qu'il passe heel partout.
Jacques, il compte une histoire. Là. Lui, quand il compte une histoire, là, c'est all in, il y a des bruits, il y a tout. J'ai trouvé ça intéressant. Jimmy Hart a tout le temps dit que son broken English à Dino Bravo l'a retenu. On a même eu une promo de Dino. Et, peut-être que dans ce temps-là, c'était le cas, mais aujourd'hui, il shinerait.
Oui, puis moi, ça me parle parce qu'on me dit des fois sur Twitter que j'ai l'accent anglophone le plus cool à entendre. dans les podcasts de lutte, donc je peux comprendre ça. Je feel Dino Bravo d'avoir un maudit accent français, québécois.
En 88, Bravo se voyait comme un top guy. Ouais. Il l'était pas vraiment. Il ouvrait des shows où il était dans des tags ou
il se voyait plus haut qu'il était. Il a pas réalisé, je pense, Dino, que la WWF là c'était gros. Là. Puis là, soudainement, il est passé de top guy à middle of the pack guy.
Curtain Jerker, là.
Certaines fois. Ouais. Par contre, il y a eu des rivalités intéressantes, tu sais. Puis bon, l'affaire du bench press, ça avait bien pogné. Ouais. Earthquake, il a fait équipe avec Earthquake pendant un bout de temps.
Earthquake, qui était le meilleur ami de Claudia. Earthquake jouait aux cartes.
Oui.
Avec Claudia.
Oui, John Tenta. Ouais. Puis tu sais, Bravo, à un moment donné, il a eu son match avec Hogan. Puis il l'a eu à Montréal en 89. Mais là, Bravo était rendu heel à ce moment-là. Ouais, ça avait plus la même signification.
Contrat se termine en 92. Et là, après 20 ans de lutte, ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il doit faire. Le futur est inquiétant. Il doit faire survivre sa famille. Ils ont acheté une grosse maison. Il y a eu beaucoup de dépenses folles. Et il y a beaucoup de remises en question. Puis il y a aucune compétence professionnelle sauf celle d'être lutteur.
Ouais.
Et là, toute l'histoire de Vic Cotroni, de la mafia rentre en jeu. C'est l'oncle de Dino Bravo. Et là, pour moi...
Juste pour qu'on soit clair, là, la mère à... le père à Dino, sa sœur, c'est la femme de Vic Cotroni.
C'est
l'oncle par alliance.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et... Moi, le documentaire a pris un turn de vraiment bon à great quand Claude Poirier est arrivé. Claude Poirier est arrivé, man. La scène dans le couloir, le ralenti, j'ai dit, oh shit.
10-4.
Il y a une scène de Claude Poirier qui fume une top dehors au ralenti. J'ai dit, OK, là, c'est ready. Puis Claude, il a été all out lui aussi. J'étais content de le voir. Dino, c'est lui qui allait collecter l'argent. C'était les gros bras. Il avait peur de rien. Il avait un tempérament chaud un peu, et ça nous amène à la bagarre avec un joueur des Nordiques dans un bar. Pat, qui est ce joueur?
Je sais pas. C'est l'autre, j'ai parlé à Gino Brito, puis Gino Brito, il dit, je m'en rappelle pas. Puis c'est pour ça, Gino Brito, c'est un worker. Hein? Ouais. Fait que c'est pour ça que dans le documentaire, il dit, je peux pas vous le nommer. C'est pas qu'il veut pas le nommer, c'est que ça rappelle pas. Fait qu'il a couvert ça en disant ça. Il y a des gens qui le savent, c'est sûr. Je finis par le savoir.
Mais Bergy doit le savoir.
Bergy doit le savoir. Parce que je suis pas mal sûr que ça soit. Bergy avait eu des problèmes avec Bravo.
Ouais.
Tu sais, parce que son tempérament bouillant, là, Bravo, c'est un fier partisan du Canadien, puis les Nordiques, il détestait. Puis, il a un match au Forum, à un moment donné, il s'en était pris à Simon Nollet, qui était l'assistant coach de Bergy, puis Bergy me le raconte, puis il me dit, c'était pas du fake, là, c'était pas une histoire de lutte, c'était vraiment vrai.
Mais il me l'a raconté aussi. Ouais,
Bravo était prêt à se battre, là.
Puis Bergy, de la façon qu'il me l'avait raconté, il était fâché de me l'avoir raconté. Il dit, je j'étais vraiment fâché, là.
Ouais, ouais.
J'étais vraiment pas content.
Il pensait pas que Bravo était aussi fan que ça, tu sais. Puis Bravo, bon, c'est un Italien, tempérament bouillant. Et ben, il s'est battu. C'était pas la première fois qu'il se battait, Bravo, là. Et il avait le don, là, de se mettre dans ces situations-là, malheureusement. Et ben, il arrive, puis je sais pas c'est qui, je vais le savoir, mais, ben, éventuellement.
Ça m'intéresse beaucoup. J'ai aimé
Gino, Gino m'a dit, son souvenir, le seul souvenir qu'il avait, c'était un nom francophone. Mais bon, c'était pas, il y en avait des francophones avec les Nordiques à l'époque.
J'ai aimé la, imagine c'est Claude Julien. ça aurait été drôle. Il y avait la quote que j'ai vraiment aimé par rapport à Dino Bravo, puis c'était comme un petit peu un foreshadowing vers la fin du documentaire. J'ai trouvé ça une belle touche des boys. C'est, don't point a gun, ne pointe pas un gun vers moi. C'est moi de suite, sinon je m'en viens vers toi. Ça, ça serait...
Ah ouais, mais ça, c'était la philosophie de Dino, là. Ouais. Dino, là, c'est, t'sais, qu'on dit, là, t'sais, donne-moi en un coup, là, mais manque-moi pas, parce que moi, je te manquerai pas.
Ben, ils l'ont pas manqué.
C'était ça, la philosophie de Dino.
Diane, elle a pas été capable de parler du décès de Dino, et c'est bien correct. Je trouve que ça a ajouté au documentaire. Il est mort assis dans son fauteuil. Clairement, le gars, il savait qui était là, là.
Il regardait un match du Canada.
Il est mort en faisant l'affaire qu'il aimait le plus.
Ouais, il y a un match du Canadien.
Puis, tu sais, là, les trucs sortent, mais la porte a débarré. Mais là, ils vont dire, ouais, mais la porte a tout le temps débarré chez eux. Tu es mort dans ton divan avec la télécommande dans les mains. Tu sais c'est qui.
Moi, si tu veux mon avis, là, OK?
Parce que là, on rentre dans le... On sait pas ce qui est arrivé, on va dire ce qu'on pense.
Ouais. Moi, je pense que Dino Bravo... La personne n'est pas rentrée. La personne a sonné. Dino Bravo a ouvert la porte. Il savait c'était qui. Il connaissait. Il l'a laissé rentrer. Il s'est rassis sur son divan. Ils ont peut-être sûrement jasé un peu. Puis à un moment donné, la personne s'est levée. « Hey, je peux utiliser tes toilettes? » Sur les toilettes, reviens. Boum, boum, boum.
Parce que... Pourquoi utiliser les toilettes?
Ben, pour donner une excuse pour revenir puis pas s'en apercevoir que l'autre s'en rende pas compte.
Ah, parce que c'était en arrière de sa tête, c'est vrai.
Pis, parce que si le gars rentre... Si, mettons, la porte est débarrée, puis que le gars fait juste rentrer.
Ouais.
Ben, je veux dire...
Dino, il se retourne.
Ben, Dino, voyons, pourquoi il se rentre chez nous sans cogner? Tu sais? Fait que, je suis sûr que c'est pas de même que ça s'est passé, parce que sinon, puis tu peux pas rentrer, puis tout de suite tirer des coups de feu, parce que ça aurait fait des échos à l'extérieur. Ouais. Fait que fallait que...
La porte soit fermée.
Fallait que la porte soit fermée. Fait que, moi, je suis sûr que Dino l'a laissé rentrer. Je suis sûr que c'était quelqu'un qui connaissait.
Ça, ouais.
Et il s'est trouvé une excuse pour, à un moment donné, juste prendre Dino par surprise, puis en bon québécois, le passé. Ouais.
Moment fort, quand la fille... cette scène-là, c'est une des meilleures du documentaire, quand sa petite fille apporte le dessin de Dino avec Diane quand Claudia apporte le dessin à la tombe, j'ai aimé le reenactment, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça bien, puis c'était mon moment émotif. Là. Même moi, j'ai fait « Oh, c'est cute, c'est bon. » C'était la grosse nouvelle à Montréal. Oh, je t'ai effacé. Non, OK, c'est back. C'était la grosse nouvelle à Montréal. Tout le monde en parlait. Cover du Journal de Montréal. C'était fou.
Ah, ben oui. Ben oui. Puis en plus, c'était dans le monde de la lutte. C'était le troisième décès de quelqu'un en bas de 50 ans en trois mois. Le géant Ferré était mort en janvier. Kerry Von Erich était mort en février. Puis Bravo. Puis trois morts complètement différentes. Ouais. Tu sais, Kerry s'est suicidé. André, bon, mort de
sa maladie.
Ben, de sa maladie. Puis Bravo qui se fait tuer.
Les hypothèses, ça, on en a parlé. Trois jours après sa mort, il trouve 55 000 $ et une cargaison de cigarettes.
Ouais.
Chez eux, et c'est là que le documentaire prend le chemin vers le côté un peu criminel de Dino Bravo. Rick Martel n'a pas voulu participer au documentaire.
Rick est retiré de la vie publique, puis il veut plus donner d'entrevues, pas juste pour ça, point, il est retiré de la vie publique.
C'est ça, c'est pas juste la lutte.
Non, on respecte ça. Donc, les gars, ils ont été chercher une vieille entrevue de Rick, que j'ai trouvé que
ça fitait
parfaitement, parce que pour vrai, Rick, c'est la seule personne à qui Dino avait parlé. Il a jamais voulu parler à Gino. De tout ça, parce qu'il voulait protéger Gino.
C'est ça, je pense, c'est ça, c'est exactement.
Il voulait protéger Gino, puis je dis pas qu'il voulait pas protéger Rick, là, c'était même avant qu'il quitte la WWF, mais il a jamais voulu en parler à Gino.
Parce que je pense que Gino, c'était plus son brother.
Ben, Gino le connaît depuis qu'il est enfant.
C'est ça.
Fait qu'il voulait pas, tu sais, si jamais quelqu'un posait une question à Gino, puis qu'il dit « je le sais pas », il voulait être sûr qu'il savait pas pour vrai. Ouais.
Donc, là, on est passé vers les relations de Dino avec les Indiens sur les réserves.
il a fait une gaffe, Dino, là. Il a clairement fait une gaffe qui a, puis probablement plus d'une, qui a coûté beaucoup d'argent au crime organisé.
On parle de 400 000, là.
Ben, c'est ça, là. Tu sais, on parle de 50 000 d'un côté, on parle même d'une gaffe de 400-500 000. Tu sais, t'as Claude Poirier qui dit, j'ai vu du monde se faire passer pour moins de 50 000.
Ouais.
Fait que, pis t'as André Cédillo qui dit, ben oui, 400, 500 000, ouais. C'est bien suffisant pour se faire tuer, puis effectivement. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a des erreurs, puis oui, les Cotroniers étaient dans la famille Adino, mais il n'y avait plus le même emprise,
ben, de la façon...
sur le crime organisé, puis c'était pas leur coin à eux, ça. Là, c'était pas...
Ben, la contrebande des cigarettes, comme ils disent dans le documentaire, c'est pas un truc de mafioso.
Non, exact.
Fait
qu'à un moment donné, les Cotroniers auraient pas pu rien faire, puis dans le fond, ils ont pas pu rien faire non plus. Puis, tu sais, Dino, tu sais, il s'était battu avec des motards dans l'année qui avait précédé. Puis, tu sais, Dino, justement, tu sais, il emmenait large, il y avait un big mouth, il parlait beaucoup, puis dans ce milieu-là, plus tu parles, puis plus ça peut être dangereux pour toi. Donc, tu sais, il y a ça aussi, je pense, qui a pas aidé, là, Dino.
On n'aura jamais la fin. Là, juste vous dire, tu sais, je fais un rundown du documentaire, ouais. Je fais exprès pour pas tout dire, parce que vous devez aller l'écouter, là. Je dis les choses importantes, là.
Mais
je
peux-tu te dire la partie, moi, qui m'a le plus touché?
Ben oui, vas-y.
La fin.
Ben, je m'en allais vers ça.
Ah, t'en allais ça, ok, vas-y, je te laisse aller.
Ouais. Donc, il y a plusieurs hypothèses de la mort de Dino Bravo. Personne dans le docu avait la même hypothèse, là. Tout le monde avait une idée différente. Ouais. On n'aura jamais la fin. Par contre, un des moments fort, fort, fort du documentaire, c'est quand ils ont laissé toute la place à Claudia.
Claudia, c'est la star.
Et Claudia, c'est la méga star. Et Claudia est allée, c'est une de mes notes, Claudia est allée all out. Ils ont fait la place. Ils ont pas rien coupé. Ils ont dit, vas-y, Claudia, t'étais là, t'as fait l'entrevue, vas-y.
Moi, quand j'avais interviewé Claudia pour mon article, j'avais réalisé que la question qui l'avait fait le plus réagir, puis où les émotions, où j'avais déchargé le plus d'émotions, c'est quand je lui ai demandé si t'avais la chance d'avoir ton père en face de toi maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ouais.
Et c'est drôle, j'en ai eu un frisson. Et je le savais que pour le documentaire, fallait que je garde cette question-là pour la fin.
Ouais.
Parce que j'aurais pas voulu continuer l'entrevue après. Et je me suis gardé cette question-là vraiment pour la fin. Puis elle m'a répondu quelque chose de similaire, mais en même temps différent de mon entrevue à moi. Puis tu sais, on la voit à la fin, puis elle pleure. Puis pour vrai, j'étais là, j'ai posé la question. Je sais ce qui s'en vient. Je l'ai écouté deux fois, le documentaire.
Ouais.
Les deux fois, j'ai eu les yeux pleins d'eau.
Oh ouais,
les deux fois, le mouton m'a poigné dans la gorge. Elle est tellement, tellement touchante là-dedans.
C'est parce qu'elle est vraie. Elle fait pas de la télé, elle est pas train. Non. C'est juste, moi, je parle et puis that's it.
Mega star. Et tu sais, quand elle dit, je lui dirais, je lui pardonne pour les choix qu'elle
a fait. Oh my God.
Comment tu veux pas que ça vienne te chercher?
Ben, tu sais, quand elle dit, j'aimerais ça qu'il joue à la lutte avec mes kids.
Ah, ben oui, son petit gars qui a dit, c'est mon père tout craché, mon petit gars.
Ouais.
C'est pour vrai, Claudia, là.
La star. Ah,
définitivement.
C'est ça que je voulais que tu y dises de ma part. Je voulais pas faire comme les creeps qui la add sur Facebook, là. Elle est pas la adder, là. Mais je voulais vraiment absolument que tu lui transmettes ce message-là.
Ouais. Et tu sais, à quelque part, j'avais un peu une crainte que les gens fassent comme, je m'attendais à ce qu'on ait un coupable à la fin, je suis déçu.
Et
je pense que Claudia a tellement été bonne dans ça que non, t'as peut-être pas de la nouvelle information, si t'es quelqu'un qui s'est tenu au courant de ce qui s'est passé, mais t'as une nouvelle vision des choses par Diane et par Claudia, et pour vrai, là, si à la fin, Claudia va pas vous toucher droit au cœur, vous en avez pas de cœur.
Tabarnouche, pas de force, t'as pas. La police a refusé de participer au documentaire.
Parce que c'est un cold case.
Parce que et que
l'enquête est pas encore
fermée.
C'était
ma recherche pour le documentaire de Dino Bravo. Moi, je mettrais un 5 étoiles sur 5 pour tout le documentaire. Un des meilleurs, et encore une fois, Claudia, c'est la star, mais aussi Diane. Diane a été exceptionnelle. Puis là, je pense qu'on va parler à Evan Hussner.
Hussner.
Whatever, là.
Non, un peu de respect. On dit pas Kevin a Raphaël.
Ben, souvent.
Oui, mais
c'est qui m'a appelé? Kim Clavel qui m'appelle Kevin Raphaël Show comme si c'était mon foot. Non.
Bon, ben, t'aimes-tu ça? Okay, bon, ben, okay. Un peu de respect. Fait que,
Evan Hussner.
Hussner! Damn!
Donc,
on va l'appeler Evan. Appelle juste Evan. Tu vas être correct.
Donc, on s'en va directement à l'entrevue maintenant.
Alors, Kev, on est... je suis vraiment content, puis un gros merci de tout ce que tu as dit sur le documentaire, puis très, très fier de ma participation-là, puis très content de recevoir le co-créateur et co-producteur exécutif de la série Dark Side of the Ring, Evan Osney. Evan, welcome to the show, and I mean... Amazing job. I mean, I know I'm part of it, but still, you know, it's an amazing job that you just did with the whole series, but also especially with the Dino Bravo one.
Oh, wow. Thanks, Pat, and thanks for having me. Couldn't have done this episode without you, man.
Okay, me, I ask the tough question. That's my role on the pod, okay? So before we're taping, I said it was good. Now I'm going to ask you questions. But before everything, why did you choose that story? Why Dino Bravo?
Well, when we first started sketching out the series way back in season one, the first season of the show, the whole idea was the show to look at true crime stories in the world of wrestling. And when we were researching true crime stories, it was really hard to ignore the story of Dino Bravo and how, you know, he passed away. And we felt like it was just a perfect fit for the type of show we were trying to put together. And we actually started filming it during season one, but plans changed with the network and we actually had to put it on the shelf and hope and pray that we got a season two so we can actually finish it, which we were thankfully able to do and release last night.
You have no idea how disappointed I was when you told me that, you know, it wasn't going to be part of the first season. And at the time, we were not even sure if it would air, you know. So what was the reason behind Vice giving you the green light for a second season? Mm-hmm. Was it just based on the ratings or there was something else?
Yeah, no, it was absolutely part of the ratings was how we got to season two. And, you know, it was a very hard thing for us when we did season one because we were filming not just the Dino Bravo episode, but we also filmed our episode about the Brawl for All tournament. And both of those episodes had to go unfinished. And we literally had to stop production on them and put them on the shelf and, you know, because there was no money there. So we had to wait a whole nother year to finish them, which we were glad we did. But yes, it was basically based on the ratings and the success of the show and the audience that just tuned in every week, which we can't thank enough.
What was the most challenging thing while doing this doc? Because yes, there's the French component of it, that story that mm-hmm. we don't really know what really happened. So what was the biggest challenges?
Well, that is kind of the biggest challenge is not really knowing or not having a conclusion or being able to, you know, solve this murder, you know. And so going into the story, it was, you know, trying to tell a story that would be interesting for viewers, wrestling fans and non-fans, to be invested enough in, you know, the family story and Dino Bravo's wrestling career and those different aspects, because we definitely went into this knowing that we wouldn't be able to solve it, you know. So that was one of the biggest challenges, being able to, you know, tell a story people would still be invested in without a proper conclusion.
One of my biggest fears, and I told you this, you know, a few days ago, was that the knowing that, you know, we were not gonna find who did it at the end, you know, that wasn't the idea from the get-go, but it wasn't the ending of the documentary, that I was perhaps expecting some backlash, you know, that people would say they would be disappointed that you know that was not the ending and that they wanted to know who did it. I mean, was it a fear of yours and I mean and Jason your partner in this, and I mean, from what the feedbacks you got so far, did you feel that the doc was, you know, even though we don't have the ending that some would have wanted, do you feel like the comments you're getting so far, the feedbacks are positive?
Yeah, I think the feedback has been really positive, which is awesome. And it's also surprised us, you know, when we asked people at the start of season two, what stories, you know, do you want to see us tell? What stories do you want to hear? And Dino Bravo, like, ranked way high at the top of that list.
Wow. Okay.
There's really, I think there's a lot of interest in him and in and his stories, because a lot of it's existed in that rumor and innuendo world for so long. But to answer the first part of your question, yeah, it definitely was a challenge for us. Because obviously we would have liked to have uncovered, who's responsible and being able to drop a bombshell last night on TV. But I think for us, it kind of goes back to what we do with a lot of the other episodes, is where we present multiple scenarios, multiple viewpoints, and kind of let the audience walk away with, their own interpretation of the story and their own kind of theories. And that's something that we always love seeing, is people talking about the episode, completely analyzing it and coming up with their own theories. And that to us is just one of the reasons why we got into this, because we would do the same when talking about these stories.
I think that personally for me, and you let me know what you think about that, I think it's better like that, because mm-hmm. it opens up the discussion. And for me, trying to find out what people think about who did it, I had way more fun doing that than if you just told me who did it. It's like a mystery. It's like something that we don't know. My question to you, what do you think happened? Mm-hmm. You made so many interviews. What do you think happened?
Well, it's actually tough to say, and I've spent some time thinking about it over the last couple of days as I was gearing up for this to premiere on TV, and I kind of go with what the crime experts in our show say, is when you look at the style of execution that we're talking about, is like a traditional mob style execution probably wouldn't be someone going to your home and doing it in that sort of a way, and in an extremely violent sort of way, like almost overkill, and so you tend to kind of look at, well, is this more of the Hell's Angels style, or is it more of like the biker gang style? But then you kind of look at that and then you see that it still involves other parties, like maybe this is a contract that was picked up by, a biker gang, and they, went off and, executed that. But to me, that's kind of where I tend to think, only because of the style of the nature of that. That really made sense to me while, listening to the interviews of what people were saying about it.
Now, I need to ask you, because I said on the pod while doing the rundown of the interview, I said, when Claude Poirier, the detective guy, came, that was when this documentary went from very good to great. How was it to work with this guy? Because this dude is a legend. He's like a god here. How was it for a guy that didn't know him working with him?
Yeah, I mean, that was it was a pretty wild experience. I mean, I don't speak French. So, we basically had to rely on Pat, who was working with us making this episode, and Pat actually conducted the interview. And it was funny because I was in the other room while doing Claude's interview, just listening to our sound person live translating everything he was saying. And all of it sounded like so mysterious and so just like this crazy examination of this criminal underworld. And it really sounded like we were partaking in some, secret, mysterious operation while I'm like in the other room overhearing this conversation about the mafia. Like, it was really cool.
Evan, let me just translate for our French-speaking folks here. Kev, tu sais, dans le fond, ce qu'Evan nous dit, c'est un des challenges, un des défis du documentaire, c'était justement de travailler autour du fait qu'on n'était pas pour avoir à la fin un nom, un coupable. Donc ça a été un des défis avec lequel il a dû travailler. Lui, selon sa les entrevues qu'il a fait, la théorie qu'il croit le plus, c'est que ça ressemble pas vraiment à un meurtre fait par la mafia, mais peut-être plus à cause de la violence avec laquelle ça a été fait, le nombre de balles que Dino a reçu, que c'était peut-être plus le travail peut-être d'une organisation de motards, un peu comme les Hells Angels. Donc c'est parmi les théories aussi qui sont amenées par les les experts criminels sur le documentaire, et puis que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le documentaire au début de la saison, c'était un de ceux que les gens attendaient le plus, là. Il était dans les plus, sûrement avec le documentaire de Chris Benoit, j'imagine, mais c'était probablement un des documentaires que le monde attendait le plus. Donc, il a été tourné, comme vous le disiez tantôt, dans la première batch de documentaires, et en faisait beaucoup en même temps, et il faisait aussi Brawl for All. Donc, c'était dur pour eux, là, à ce moment-là, de pas savoir si c'était pour revenir, puis c'est les codes d'écoute vraiment qui ont permis à la deuxième saison de d'arriver. Let me ask you this, Evan. Because Claudia and Diane, when you did the Gino Hernandez documentary, I remember you telling me that the family really wanted to know what happened to Gino. And for this documentary, it was completely the opposite, right?
Absolutely, yeah. And both of those stories we were working on at the same time. So there were two different family stories about wrestling families that have experienced, you know, loss. One, Gino's family wasn't sure if their loved one was murdered. And obviously, in Dino's case, he definitely was. And for the Gino Hernandez story, it was really about us trying to uncover if he was murdered or not. And in the Dino story, which I think is very poignant, that I think it's Claudia in the episode who says that it's better for them not to know, yeah, you know, what happened, because that could be more upsetting, you know, having to, you know, be able to deal with that all over again. So it shows you kind of the nuance between those two stories, but also there are a lot of similarities. And for us, it was like, you know, working with both of those families, you know, it was, you know, really a process of earning their trust and really, you know, earning the right to tell their story and to not take that for granted, you know, because both of those families had, you know, lost, you know, a huge, like they'd lost so much, and we wanted to make sure we were being respectful to both of them in terms of covering these very, very difficult, dark stories that happened in their lives.
Is there somebody that you really, really wanted in the interview but was not available or declined?
I know the answer to that.
Well, yeah, I know you're going to say Martel, but except for this guy, because, I mean...
except for Rick Martel. Was there somebody else?
Because we talked about that. But except Rick Martel, is there somebody else that you really, really wish that you had on your pod? On the duck, sorry.
Oh, that's a good question. I mean, obviously there's a lot of wrestlers from Quebec, you know, some who aren't with us anymore, who would have been great for this, you know, like, and also someone like John Tenta, or, you know, Earthquake, someone who'd spent, you know, a lot of time with Dino. But I mean, it's hard to come up with anybody else but Rick Martel, because he felt like, you know, there's so many details about this story that us wrestling fans only know kind of because of him. And so for us, it was really hard to, you know, try to include that information, which we felt was really important. So that's why we chose to include his interview from, you know, over 10 years ago to help fill those gaps. But yeah, for us, it was kind of challenging.
Is there a story that you cut from the doc that you wish you had, I mean, 5 more minutes to squeak in?
there's always those types of stories.
Let me know what.
I'm trying to think. We were talking about it earlier today on our podcast, but there was like just some more details about, you know, Dino was the type of guy who truly was fearless. And we talk about in the episode the story of him confronting the hockey player in the bar and coming to Jacques' rescue. But there was a lot of other stories that kind of painted the picture of Dino as a guy who really was fearless and lived life on the edge. You know, I mean, he would drive his car around, and he would get into a lot. He would always be driving fast, and he would be getting into accidents and motorcycle accidents, and lived kind of recklessly, which I think kind of painted a portrait a little bit of like to what was to come for him, you know, in terms of his final year. And there was also some great just stories about, you know, Claudia growing up. As soon as her father got swept up into the WWF, you know, her and her mother are also kind of being inundated into this world and seeing all these crazy characters like Jake the Snake. I know we mentioned in the show, but also there was a really touching moment where, like, you know, Claudia would actually hang out with Earthquake.
Yeah.
And Claudia and Earthquake would be like playing cards with each other, like all the time, like traveling down the road or like either just like in the locker room. And that's just to see that through a child's eyes must just have been so crazy to grow up with that, you know, or like Andre the Giant even, you know, and things like that. So it's just there were more stories like that we wish we probably could have worked in.
It's funny you talk about Claudia, because we were just saying before we called you that to us, Claudia was the star of the show. To me, you know, I did the interview with her. I watched the documentary twice, and I knew what was coming. And still, at the end, when I asked her about what she would tell her dad if she had the chance to see him now, it was probably the most. Mm-hmm. Touching, the most emotional moment that we have on the documentary, and to me, even though I don't know if you agree with this, but I think that the performance that Claudia did here, and it's not a performance, she was just real, but you know, having Claudia on the documentary, if someone was expecting something else at the end, if you didn't like it by the end, and just because of Claudia's, you know, what she was saying and everything, I mean, that, you know, I think that made the whole documentary, having the family involved and having Claudia and Diane to be real and answering, you know, the questions in front of camera for the first time.
I agree. I think, you know, it's hard to even imagine telling this story without that family element. And that's something that we always try and work into every episode, is we try and, you know, Jason Eisner and I, who, you know, Jason does the show with me, we try and work in that family perspective, because that perspective to us is just as interesting, if not sometimes more interesting, than the wrestler perspective, because it's really these families that usually have to deal with the consequences of this crazy world, you know? And so to, you know, Claudia's, you know, just emotional moments at the end really tie it all together and also give the story, you know, all of the stakes that it has, because, you know, you have to understand the loss of Dino. And I think that's something that's really been missing from any other time the story has been discussed in the past.
Talking about other documentaries, let me ask you this. Why did you and Jason chose to talk about these kind of stories, you know, and the title of the series says it, you know, Dark Side of the Ring. You know, why did you came up with that idea? Where does it come from?
So it all started, I was working at Vice, producing documentaries there, in like, you know, 2015 and 16. And Jason and I, you know, we've been best friends for a long time. We're huge wrestling fans, and we wanted to try and find like an excuse to do a documentary about wrestling. And I tried several different stories and tried to get several different things off the ground, and nothing really materialized. But it was when we got obsessed with the Bruiser Brody story, which was actually wound up being the pilot episode of our show. That's how, you know, we just became fascinated with the territory era of wrestling, the idea of like kayfabe and like sort of protecting your character. And then the Bruiser Brody story is so fascinating because it's really that intersection between true crime and wrestling. And that's where we wanted to try and tackle wrestling stories in the style of like a true crime documentary. That was the idea. And so we just basically tried to find stories that, you know, look at wrestling in that way, like these kind of more darker emotional stories, but at the same time try to inject enthusiasm into every episode, because we are still fans. We're not trying to, you know, take wrestling down or belittle it. We're trying to celebrate it, but also at the same time show you the human stories that are inside of wrestling. And that's really what it is. It's more so the human stories of wrestling more than it is like, here's just the worst, most tragic things that have happened in wrestling. That's what we tried to do.
That's a good segue to where people can find the Dark Side of the Ring series. They can find it on Vice here in Montreal. They can find it on Crave. And I need to ask you this. Like, I know we're fortunate enough that you came on the pod today talking about Dino, but everybody listening to this knows I'm waiting for that 0-1, just like I waited for the Last Dance on ESPN, okay? This is my Last Dance, the 0-1. So I'm asking you, I'm not begging, but almost, would you come on a pod after the 0-1? Because I have so many things to ask you.
Sure, yeah, no problem.
There you go.
The Owen Hart episode is definitely, we just finished it yesterday, was actually when we finished it, so we are very, very much looking forward to getting it out there. I think it's really special, the fact that Martha Hart, you know, trusted us with, you know, this story, and I think it's going to make a big impression on a lot of people who even are fairly familiar with this story.
Well, let me say, Evan, that I'm not surprised that she trusted you, because I've witnessed the way that you and Jason conduct yourself, you know, and with the Claudia situation, and we talk about, you know, the dinner and everything. So I mean, I'm not surprised, because really you're showing a lot of respect to professional wrestling, even though it's something that is not really easy to talk about. You know, none of the episodes are stuff that are easy to talk about. So I think you're doing an amazing job doing this, and I'm really not surprised to hear that, you know, so many people are trusting you with their story. So thank you so very much for being on the podcast. Maybe one last question. Are we going to see a season three? I'm putting you on the spot now.
Well,
what are the odds?
I would imagine that, you know, the odds are pretty good.
Okay.
You know, there are no shortage of stories in terms of things that we can cover. So that's good news. It all just comes down to, you know, some business negotiations and a few things, and hopefully making our lives a little bit easier the next go around, and then hopefully we should be able to do it.
If I'm giving you all the money in the world, what story you want to do that you didn't do?
Oh man, that's a good question. I think like one of the stories that there's two of them. There's one like I would really love to do the WCW event in North Korea as an episode. And I would love to do a piece about China.
Oh,
wow. Yeah.
Well, we'll talk again, because you said yes for the 0-1. And thank you so much for being with us. And
Where we can find you on social media.
Where we can find you on social, because there's a lot of French people that's listening to it right now. You're going to have a new fan base.
Okay. That's awesome. You can follow me at Evan Husney, my name, on Twitter and Instagram. And you can also follow the show at Dark Side of Ring on Twitter, or at Dark Side of the Ring on Instagram.
Well, thank you so very much, Evan, and looking forward to talking
thank
to you,
you
again with the after the Owen Hart episode. And let's keep in touch.
Sounds good. Thank you guys so much for your time.
Fait que dans le fond, Kevin, les dernières minutes qu'on a parlé à Evan, ce qu'il nous dit, c'est, il nous a dit ben des affaires, entre autres, qu'un épisode qu'il aimerait faire, ce serait sur China.
Ouais.
Il nous a expliqué également pourquoi il avait choisi des sujets aussi sombres. C'est que l'histoire de Bruiser Brody les avait vraiment interpellés, lui et son partenaire Jason, et il voulait pas juste faire un documentaire sur la lutte, mais un documentaire plus sur des récits criminels réels. C'est ce qu'on appelle en anglais des true crime stories. Donc, il voulait vraiment...
C'est ce qui marche en ce moment.
Ben
Netflix,
oui.
Là, ils vivent là-dessus.
Ben exactement. Making a Murderer, puis tout ça. Donc, il voulait exploiter ce bout-là de la lutte professionnelle, tout en ayant beaucoup de respect pour la lutte. Puis ça, on le voit, parce que c'est deux gars qui sont des fans. Hey, ces deux gars-là étaient au dernier match de Kevin Owens,
ouais,
à Battle War en 2014.
C'est fou.
Tu sais, c'est vraiment des fans de lutte. Et il nous disait qu'on lui a demandé s'il était pour revenir après l'épisode d'Owen Hart. Et il a accepté accepté et il nous disait que il est chanceux d'avoir eu la confiance de Martha Hart et je suis pas surpris moi parce que justement ça je lui disais, je l'ai vu comment il a opéré, comment lui et Jason ont opéré avec Claudia, donc je suis pas surpris que les gens lui donnent cette confiance là parce qu'il traite les sujets avec beaucoup de respect puis il traite les familles avec beaucoup de respect.
Puis tu sais, je veux juste le mentionner tout de suite là, plus le podcast va avancer, plus il va avoir des entrevues en anglais, plus plus c'est ça, il va avoir des entrevues en anglais parce qu'il n'y a pas 800 000 lutteurs ou producers ou francophones. On va essayer de vous donner le plus de résultats francophones, mais merci d'accepter qu'on vous fasse des entrevues en anglais parce que ça nous permet d'aller plus loin puis d'avoir un gars comme Osni, d'avoir une fille comme Paruza. Madame Osine. Puis on veut vous remercier d'être patient avec nous. Puis si ceux qui comprennent moins bien l'anglais, ben ça va être la chance à tout le monde de s'améliorer en anglais, autant pour nous que pour vous autres.
Donc, on va toujours vous résumer, mais c'est sûr qu'en même temps, on peut pas faire une traduction mot pour mot. Ça serait long. Long et lourd, ouais. mais on demande votre collaboration là-dessus, bien entendu. Ben écoute, ça a été le plus long extra qu'on a jamais fait.
Mais
je pense que la situation le demandait. T'as toujours faim, man. Je vois ton ventre en ce moment, puis je suis pas surpris.
Faut chier!
Pour vrai... Tu peux pas dire ça pendant qu'on est en train de parler dans le podcast. Pour vrai, on va y promener de même. Pour vrai, on vous remercie d'avoir été là. Merci Kevin d'avoir été si généreux dans ta recherche. Je sais que c'est pas quelque chose que tu fais tout le temps. Puis tu veux-tu je te laisse.
Cube Radio, Spotify, Google Play, Apple Music, Stitchers. Laissez-nous 5 Star Frog Splash. Laissez-nous des commentaires. On lit juste les bons. Suivez-nous sur @Instagram. @PatLaprade. @KevinRaphael21. Allez écouter mon podcast sans restriction, plein d'invités nice. Allez acheter le livre de Pat Laprade, ECW Press. Puis yo, c'est ça.
En mon nom et celui de Kevin Raphaël, on vous remercie d'avoir été là et on vous dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. C'est vraiment cool, bravo.